Vous écoutez Bac FM, il est 10h37, on est parti pour votre premier rendez-vous cinéma. C'est tous les mercredis, c'est toutes les semaines, on est parti pour la première de l'année, bienvenue.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.
Très bonne année cinématographique à vous. Et c'est ce qu'on va essayer de vous évoquer ici tous les mercredis sur Bac FM avec celle qui m'accompagne tous les jours derrière cette vitre. C'est ma réalisatrice intervenante dans cette émission, Laetitia. Bonjour.
Salut Théo et meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Une année riche en cinéma.
Mais bien sûr, mais qui s'annonce très belle hein, d'ailleurs, oui, cette année cinématographique 2025. Une année du cinéma français qui a cartonné en 2024 et qui risque de prendre la suite en 2025. C'est évident. Emmanuel aussi nous dira pas le contraire.
Une très belle année pour le cinéma d'horreur aussi. 2024 avait été une belle année, donc on espère que 2025 sera dans la même lignée.
Est-ce que tu penses que oui?
J'espère.
En tout cas, on compte sur toi pour bien sûr nous informer hein, sur toute cette actualité brûlante.
Avec grand plaisir.
Je parlais de Manuel, bien sûr, hein, qui sera là dans l'émission, qui est assez confiant hein, sur cette année 2025 du cinéma français, mais aussi international, bien évidemment. Du cinéma international qu'on va évoquer tout à l'heure avec le blockbuster, c'est le deuxième opus de Suicide Squad hein, qui arrive tout à l'heure, Criminal Squad, pardon, qui arrive tout à l'heure. Il y a aussi un film français, un très beau film français avec un duo d'acteurs que j'aime beaucoup. Et puis Manuel nous emmènera au Japon lui. Ouais, c'est un film d'ailleurs qu'on évoquera avec mon invité également tout à l'heure à 13h avec l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers. Tout de suite, on va passer aux infos. Laetitia, on est reparti.
Allez, c'est parti.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Et les nouvelles sont bonnes pour le cinéma français. Justement, Manuel nous en parle grâce aux Golden Globes. Une soirée gagnante pour le cinéma français, Manuel.
Oui, c'est très juste, mon cher Théo. En effet, une belle soirée pour le cinéma hexagonal. Une première moisson, avec ces belles récompenses qui peut-être va annoncer d'autres heureuses surprises. Après avoir été doublement salué au dernier festival de Cannes, prix du jury et prix d'interprétation pour ses comédiennes, Emilia Pérez, donc caracole en tête avec un statut de favori, assumé hein, pour la 82e cérémonie des Golden Globes, des récompenses qui ont été décernées par la presse étrangère à Hollywood et dont le palmarès donne un petit peu la couleur avant les Oscars qui, on le note sur nos tablettes, auront lieu le 2 mars prochain. Alors, en tête du nombre de nominations avec 10 chances d'être récompensée contre 7 pour son principal challenger The Brutalist, la comédie musicale en espagnol signée par le réalisateur français Jacques Audiard, a réussi un bel objectif. Elle a récolté 4 statuettes, dont la plus prestigieuse, celle du meilleur film comique ou musical, une première pour un long métrage tricolore. On se rappelle, c'était la dernière fois, c'était pour The Artist et c'était en 2012. Également à signaler sur le plan français, Demi Moore, puisqu'elle a pour cette prestation dans The Substance, la comédienne de 62 ans a livré un discours très émouvant lors de la soirée. Elle a été sacrée meilleure actrice, et quand je dis français, c'est parce que c'est une Française, la réalisatrice du thriller assez gore et qui nous rappelle David Cronenberg de The Substance. C'est Coralie Farja. Première récompense en plus de 45 ans de carrière pour Demi Moore, et il fallait donc le saluer, ce beau parcours.
Alors voilà une belle preuve que le cinéma français a cartonné en 2024 grâce aux récompenses de ce début d'année.
Et qu'on peut être une actrice de 62 ans et être récompensée, et c'était amplement mérité,
oui,
elle était magnifique. Demi Moore dans The Substance.
Ouais, t'avais beaucoup aimé, toi, The
ouais,
Substance.
Ouais, ouais. Hein.
Ouais, de même. C'est vrai que c'était un film qui avait. Un film un peu niche, hein, qui avait choqué ouais. un petit peu, mais qui était très, très bien réalisé.
Très impactant.
Ouais, exactement, exactement. On va continuer de parler de cinéma français juste avant de se pencher sur les sorties, Letty, avec le dernier film de Franck Dubosc.
Ah oui, mais je crois que tu l'as vu en plus.
Ouais, je t'en ai parlé de ce film réalisé par Franck Dubosc et porté par le trio dont il joue, hein, Franck Dubosc, leur calami Benoît Poulvord. Ça s'appelle Un ours dans le Jura. Et ça a réuni 390 000 spectateurs dans 580 cinémas. C'est le meilleur démarrage hein, de cette première semaine de 2025, exactement, pour Franck Dubosc. C'est inférieur à son lancement de Tout le monde debout en 2018, mais ça surpasse quand même nettement sa précédente réalisation qui était assez moyenne, hein, qui s'appelait Rumba la vie, avec de très bons premiers tours des spectateurs et la possibilité de rester à l'affiche dans nombreuses salles, au moins jusqu'aux vacances d'hiver en février. Bien, la comédie policière est partie pour dépasser largement le million d'entrées. Je pense même que ça va frôler les 2 millions normalement. Pour rappel, Un ours dans le Jura, c'est l'histoire de Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières qui ne se parlent plus vraiment, jusqu'au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, va heurter une voiture. Il va tuer les deux occupants. Il y a donc 2 morts, mais surtout 2 millions en billets usagés dans le coffre. Forcément, ça donne envie de se reparler et surtout de se taire. Écoutez.
Michel, viens voir.
Qu'est-ce qu'on fait?
C'est beaucoup.
C'est combien?
Beaucoup. Ouais. Cathy, Michel, la nuit du 21. Est-ce que vous avez entendu ou vu des choses qui vous paraissaient anormales?
Anormal, c'est-à-dire?
Deux hommes, une femme, du miel.
Oh là 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 là. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement?
2 millions. C'est une somme.
On va le cacher. On n'y touche pas.
Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait?
On réfléchit, je te dis.
C'est l'histoire de la petite fourmi qui voulait manger la baleine. Je crois que l'histoire est dans le titre.
Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants.
Polar thriller, parfois comique, hein, dans l'humour noir, Un ours dans le Jura propose une photographie qui rappelle Fargo énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de rappels à Fargo dans ce film des frères Coen. Un scénario original, sorti de l'imaginaire de Franck Dubosc, qui n'avait jamais encore exploré ce genre, et un contre-emploi intéressant, loin de Patrick Chirac, et ça, c'est intéressant. Non, mais
oui, c'est intéressant,
vrai.
Parce qu'on l'imagine, à un moment donné, moi, je l'imaginais vraiment cloisonné là-dedans.
Exactement, moi, j'aime beaucoup Franck Dubosc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Et je trouve que ça fait du bien de le voir dans un genre de film qu'il n'avait encore jamais abordé, d'autant plus dans la réalisation et dans l'acting également, parce qu'il n'a pas du tout le rôle du beauf de Patrick Chirac, hein, loin de là, loin de là. J'ai parlé du casting, bien sûr, avec Franck Dubosc, leur calami Benoît Poulvord, mais j'aimerais avoir une petite mention spéciale pour Kim Higelin, que j'adore, rôle très intéressant dans le film. On l'avait découvert dans Le Consentement avec Benoît Poulvord, ouais. où elle avait un rôle qui n'était pas facile du tout. Là encore, elle a un rôle...
Il y avait déjà Poulvord dans Le Consentement ?
Ouais, bien sûr. Pas Poulvord, pardon. Je raconte des bêtises. C'est pas du tout Poulvord, c'est Jean-Paul Rouve.
C'est Jean-Paul Rouve.
Autant pour moi.
Mais c'est parce que tous les deux ils jouaient dans Podium, en fait.
Exact.
C'est pour ça que t'as confondu.
C'est ça, d'ailleurs, film que tu avais présenté en cette fin d'année. Elle jouait donc aux côtés de Jean-Paul Rouve, un rôle très sombre. Et là encore, dans ce film, elle a un rôle plutôt sombre. Je pense que ça va être un petit peu sa marque de fabrique aussi à elle. Et puis on trouve Joséphine Demeau dans ce film. Est-ce que tu sais qui c'est, Joséphine
Demeau, mais ça me dit quelque chose.
C'est celle qui joue dans la colo Nos jours heureux.
Ah mais oui, mais c'est celle qui
pète
louche,
un plomb sur le gosse, exactement.
Ouais. C'est pas ça. Dans le film, hein, je précise.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on peut rajouter aussi pour conclure à ce casting d'Un ours dans le Jura, eh bien ce sont les fabuleux paysages du Jura qui sont montrés enneigés et ça donne envie eh bien de partir au ski par exemple, Laetitia, voilà.
Bah ouais.
On va partir à Nice tout de suite avec les sorties ciné, c'est parti.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Alors, on l'a pas précisé, hein, mais bien sûr, Un ours dans le Jura, c'est toujours à l'affiche du ciné Mazarin,
oui,
bien
c'est
évidemment.
C'est sorti le 1er janvier, hein, c'est ça?
Exactement, vous vous en doutez, c'est toujours à l'affiche. Criminal Squad, Pantera de Christian, Get the Sat avec Gerard Butler, O'Shea Jackson, Bob Jennings et d'autres. Ça, c'est la grosse sortie de cette semaine, c'est le blockbuster de cette semaine. Et de quoi ça parle? Eh bien, c'est la suite hein, des aventures de Big Nick O'Brien qui traque les méchants dans les rues d'Europe et qui se rapproche de la capture de Denis. Un duel mouvementé entre le flic et le voleur. Killer dans le monde dangereux des voleurs de diamants et de la mafia des panthères. C'est le deuxième épisode qui nous emmène en France d'ailleurs. Alors en France, enfin presque. L'histoire elle se déroule à Nice, mais elle a été tournée en réalité sur la côte des îles Canaries.
D'accord.
Donc c'est Nice, mais pas Nice. Criminal Squad, c'est devenu le film culte de cambriolage. Du moins un des films cultes du genre. Le twist final est toujours très attendu. Et dans ce nouvel opus, comme dans le premier, vous n'allez pas être déçu. Un budget de 30 millions de dollars, Criminal Squad premier volet a rapporté 80 millions dans le monde. Lionsgate a donc décidé de produire une suite. Le deuxième volet dispose d'un budget équivalent, devrait rapporter plus que le premier même. D'ailleurs, voici la bande-annonce.
Toi et moi, on est liés en quelque sorte.
Ce qui se dit, c'est qu'on t'aurait foutu dehors.
Ton prochain coup, je vais le faire avec toi.
On va braquer le World Diamond Center. Le butin est de 850 millions d'euros.
On procédera à une descente chronométrée. On progressera sans se faire repérer en se calant sur le cycle des caméras. Il n'y a aucun angle mort. On va devoir en créer un. Tu le sens ?
Ah oui, je le sens. Tu as volé quelque chose qui nous appartient.
T'as piqué des diamants appartenant à la mafia !
C'est des pilotes, ces mecs !
Alors on les dégomme.
Et le flic se transforme en gangster.
C'est donc Criminal Squad, ça sort là, ça sort aujourd'hui bien sûr au cinéma, c'est le deuxième volet Pantera avec Gerard Butler et Oshie Jackson. On va changer complètement de délire maintenant avec le dernier film de Pedro Almodovar à travers son dernier film qui s'appelle La Chambre d'à côté, où il explore une amitié intense entre deux femmes qui abordent des thèmes sensibles comme l'euthanasie et l'accompagnement en fin de vie avec une touche toujours très poétique quand même qu'on connaît de Pedro Almodovar. Bien sûr, l'histoire se déroule entre New York et le passé commun de ces deux personnages. Ingrid, qui est interprétée par Julianne Moore, une écrivaine reconnue, qui retrouve une ancienne amie, Martha, qui est jouée par Tilda Swinton, très émouvante d'ailleurs dans ce film, qui est condamnée par un cancer incurable, qui va lui adresser une requête bouleversante qui restera secrète un bon moment du film. La chambre d'à côté, c'est le dernier Pedro Almodovar qui évoque la question du suicide assisté, donc qui est au cœur du débat public ces dernières années dans de nombreux pays qui sont confrontés au problème du vieillissement de leur population et aux longues maladies incurables. Pedro propose dans ce film des rappels discrets mais présents tout au long du film à son Espagne natale où il est très attaché. On le voit dans tous ses films, c'est un petit peu le fil rouge de sa carrière, des rappels à l'Espagne.
C'est un peu le réalisateur que les profs d'espagnol adorent diffuser à leurs élèves. Hein.
Ouais,
qui n'a pas vu un Almodovar dans ceux qu'on fait espagnol LV2 ?
C'est clair, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, l'Espagne qui a légalisé l'euthanasie il y a 4 ans maintenant. En France, la question reste encore un débat d'actualité, un débat qui est beaucoup évoqué. Peut-être que ce film fera avancer les choses. Il est à découvrir, en tout cas, au ciné Mazarin. On va maintenant se pencher sur le film français de cette semaine, qui est une chronique, celle d'un remariage. Scénariste depuis plus de 30 ans, Agnès de Sacy signe aujourd'hui son premier long métrage de réalisatrice, enfin, une histoire d'amour inspirée de celle de ses parents qui est jouée par Isabelle Carré et François Damiens.
Au moment où je t'enregistre là, d'accord ?
Bah non, je sais pas si je suis d'accord.
Ça sortira pas de l'école, c'est le thème, filmer ses parents.
Et qu'est-ce que tu veux savoir ?
La première fois que tu l'as vue. La première image.
Il était très grand, l'imperméable était blanc. Et il avait des yeux clairs et...
On s'est regardé. Et là, toc, il s'est passé quelque chose.
On fait un beau feu, tu te souviens ?
Ouais, de fou, amoureux. T'as l'air d'aller bien, en tout cas.
Mais Yves, c'est pas moi qui allais mal.
L'amour, qui n'ose pas dire son nom, est aussi fort qu'un autre. Et tu veux qu'on se remarie ?
Pardon ? Mais non, te défile pas, c'est peut-être une bonne idée. Hein. Les mariages d'amour, on a déjà donné, c'est une connerie. Un mariage arrangé, c'est super.
Je vais le faire.
Non.
Anna, je vais le faire.
Je veux pas de ton aide. Je veux pas de ton fric. Aide-toi.
Et pourquoi un mariage, ça devrait être heureux ? Pourquoi ? Je n'éprouve plus. Je n'éprouve presque plus rien, d'ailleurs. Je l'aime. Elle est mon unique amour.
Je suis vraiment ta fille ?
Tu es la fille d'un grand amour.
Anna et Yves se sont aimés passionnément, puis se sont séparés. Des années plus tard, leur fille Cécile réalise un documentaire sur leur rencontre. Ils se revoient. À cette occasion, toujours marqués par leur amour passé, ils vont alors chercher un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Voici la vitrine de ce que vous propose le film La fille d'un grand amour, une romance loin de celle habituelle. Les rebondissements sont nombreux, le scénario est très bien ficelé. C'est un duo qui est beau et fusionnel à l'écran, Isabelle Carré et François Damiens, qui décidément excelle, hein, lui, dans ce rôle des écorchés par la vie un petit peu. Voilà donc ce que propose ce film, La fille d'un grand amour, qui est dispo au ciné Mazarin. Tout de suite, on va partir à l'autre bout du monde avec Manuel, qui va nous parler du film Un hiver à Sokcho. Alors Manuel, coup de projecteur sur ce film.
Eh bien Théo, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ce long métrage franco-sud-coréen signé par Koya Kamura que j'ai rencontré début décembre. C'était aux rencontres du cinéma de Beaurepaire, festival qui se tient en Isère. Donc Hiver à Sokcho se déroule, comme le titre l'indique, à Sokcho. C'est une petite ville balnéaire qui se trouve en Corée du Sud. Il y a Sua, elle travaille dans une pension touristique, c'est la fille d'une vendeuse de poissons sur le marché. C'est une femme d'une vingtaine d'années. Elle ne connaît pas son père. Sa mère lui a raconté qu'il était français et qu'il n'avait même pas été au courant qu'elle était enceinte. Et puis un jour, eh bien Sun-ha voit débarquer dans son hôtel un mystérieux personnage. Il est dessinateur de BD, il est français. Et elle va se mettre à l'espionner. Elle pense sûrement que c'est peut-être son père caché.
Bonjour. Vous allez rester combien de temps?
Je ne sais pas, j'ai encore rien décidé. Mais c'est intime quand même.
J'adore vos dessins. J'adore leur mélancolie.
Sur fond de magnifiques paysages enneigés, Hiver à Sokcho brosse le portrait d'une jeune femme qui, justement, à la faveur de cette rencontre, va s'interroger sur ses origines et sur ce qu'elle veut faire aussi de sa vie. Quelle est sa quête? Quel est son chemin de vie dans l'existence? Autant de points d'interrogation. Le personnage interprété par Roche Dizem, il incarne ce dessinateur de BD.
Je suis juste un touriste, un client comme les autres. Rien de plus.
Vous ne trouvez pas triste de croire qu'on peut retrouver quelqu'un comme ça après tant d'années?
Il n'y a rien de triste à espérer ou à attendre.
Misanthrope, voilà, qui se jette sur l'encre, voilà, pour voir comment elle réagit, qui va griffonner, même lorsqu'il est dans un univers un peu instable comme un funiculaire. C'est parfois donc une dimension assez, on va dire, monolithique, et c'est vrai que la carrure de Roche Dizem le permet. Le scénario évite toutes les grosses ficelles, tous les pièges. Il y a de très belles séquences d'animation, et donc c'est un long métrage vraiment délicat, tout en nuances, j'ai envie de dire impressionniste, puisqu'on parle d'un dessinateur de BD, donc dans la dimension esthétique. Et je dis bravo pour ce long métrage. Donc Hiver à Sokcho, et je salue bien sûr son réalisateur pour le talent dont il a fait preuve. Donc Koya Kamura, retenez bien ce nom.
Et ce film qui vous est proposé très bientôt par l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers, on en parle tout à l'heure à 13h avec mon invité Michel Petit-Fontanelle. On salue Manuel également, que vous allez retrouver semaine prochaine.
Et salut qui Manuel.
A un très beau portrait également dans le Journal du Centre aujourd'hui. On vous invite à aller lire les lignes de nos confrères du Journal du Centre qui ont proposé une page entière à Manuel qui parle de sa vie, de sa passion pour le cinéma, de certaines de ses rencontres et de sa passion pour voilà, le goût des autres personnes. Avant de découvrir quel film, Letty, tu as décidé de descendre de ton grenier, on va se pencher sur les événements à venir au cinéma Mazarin, bien sûr. Et c'est de la musique, avec des concerts diffusés dans des salles obscures, deux salles et deux ambiances. Caponc, d'un côté Letty et d'un autre
suspense, hein.
Patrick Bruel.
Alors, effectivement, on est sur deux salles, deux ambiances.
Ah bah là, c'est clair. Là, c'est clair. On peut se casser la voix sur les Chaka Ponk.
Tout à fait.
Patrick Bruel, vous l'avez entendu, donc concert événement au ciné Mazarin avec deux dates. Alors, vous allez les retenir jeudi 27 mars à 20h et le dimanche 30 à 17h. C'est déjà possible de réserver sa place. Et puis donc, dans un tout autre esprit, jeudi 3 avril, c'est le concert exceptionnel des Chaka Ponk, The Final Tour, qui avait fait escale au printemps de Bourges l'année dernière. D'ailleurs, le concert des Chaka Ponk au Mazarin, là aussi, c'est possible de prendre sa place. Et c'est le 3 avril. J'y serai, Alexis, bien évidemment. Quel film tu descends de ton grenier pour finir cette émission,
et
cette
bah, première écoute, de l'année, puisqu'on en est déjà au film de mon grenier, je descends vite fait de mon échelle là. Ouais. Et pour bien commencer cette année, on va dire de façon, on va laisser tomber la magie de Noël aujourd'hui.
D'accord, oui, j'ai cru comprendre.
Voilà, j'ai descendu un des films les plus subversifs de ces 25 dernières années. C'est Eyes Wide Shut. C'est un thriller érotique. Une première hein, dans les films du grenier.
Ouais, c'est
alors
clair.
C'est un film qui est sorti fin 99.
T'avais pas présenté Emmanuel, non?
Non, j'ai pas présenté.
Ah, je croyais que t'avais présenté Emmanuel.
Si tu veux, je peux te le présenter. Il n'y a pas de souci. Donc film sorti fin 99, soit seulement quelques mois après la disparition de son réalisateur Stanley Kubrick, qui signait là un dernier chef-d'œuvre cinématographique qui n'avait pas manqué de déclencher une dernière fois la polémique à son arrivée en salle. Je me souviens aussi des titres d'un magazine de cinéma qui avait titré Kubrick Lubrick.
Ah ouais.
Ouais.
Et bien donc, trouvé pour le coup.
Ouais, c'était bien trouvé. Et dans ce film-là, on a à l'affiche dans les rôles principaux le couple star de l'époque, puisqu'on a Tom Cruise et Nicole Kidman. Alors, Eyes Wide Shut, c'est un film sur le désir, la culpabilité et le voyeurisme, dans lequel on suit en quelque sorte la quête initiative du héros à travers les méandres du pouvoir, des sociétés secrètes et de l'occultisme. Aujourd'hui, on n'a pas froid aux yeux dans Action, on revient sur la genèse et sur l'impact de Eyes Wide Shut de Kubrick. Et puis, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, eh bien, on va écouter un petit extrait.
Chérie, tu n'as pas vu mon portefeuille ?
Il n'est pas sur la table de chevet ?
Ah, oui. Écoute, je sais pas si tu sais, mais on est en retard.
Je sais. Comment tu me trouves ?
Parfaite.
Et mes cheveux, ça va ?
Ravissant.
Tu ne m'as même pas jeté un coup d'œil.
Superbe. Tu es toujours superbe.
Dieu sait que j'en ai vu des raids dans ma vie. Mais jamais, jamais je n'ai vu ça.
Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing.
Retirez vos vêtements. Où voulez-vous que ce soit nous qui le fassions pour vous.
Stop! Laissez-le! Prenez-moi! Je suis prête à le racheter!
Tu es prête? À le racheter?
Oui.
Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. You ever love someone so much you thought your little heart was gonna break into?
Je vais te dire. Il y a une chose très importante. Et ça, il faut le faire le plus vite possible.
Quoi?
Baiser.
Voilà, ça donne le ton un peu.
Ouais, la dernière réplique, c'est une proposition.
Alors, c'est la dernière réplique du film, en fait. Donc, de quoi ça parle, Eyes Wide Shut? Alors, déjà, il faut savoir que c'est un film qui est très librement adapté d'une nouvelle de Arthur Schnitzler. Et ça met en scène un couple parfait à qui tout semble réussir. Bill Harford, qui est médecin, et son épouse Alice sont en effet jeunes, beaux et riches. Ils vivent dans un immense appartement cossu de New York et sont les heureux parents d'une charmante fillette. Pourtant, il va suffire d'une soirée mondaine mouvementée donnée par un richissime patient de Bill, un dénommé Ziegler, pour que le couple commence à se fissurer. Et le lendemain soir, alors que Bill et Alice fument de la marijuana, dans le lit conjugal, cette dernière va demander à son mari s'il l'a trompée durant la réception de la veille. Et de fil en aiguille, elle va finir par lui confesser qu'elle a déjà failli le tromper avec un officier de marine croisé dans un hôtel, pour lequel elle s'était même imaginé tout quitter. Et alors que la conversation va s'envenimer entre eux, Bill va recevoir un coup de téléphone qui va y mettre fin. On l'informe de la mort d'un de ses patients et c'est donc totalement ébranlé par les révélations de son épouse qui va se rendre au domicile de la famille endeuillée pour constater le décès, tout simplement. Et c'est ainsi que va débuter pour Bill une dérive nocturne au cours de laquelle il ne cessera d'être confronté à la tentation entre fantasmes et réels dangers, dont le point d'orgue sera cette invitation à une étrange soirée très privée. Alors pour y accéder, il faut impérativement s'y rendre vêtu d'un smoking, d'une cape et surtout d'un masque. Et enfin, impossible d'y entrer sans connaître le mot de passe. Une fois à l'intérieur de l'imposant manoir, Bill va se retrouver au cœur d'une immense orgie organisée par une société secrète et il va devenir la cible d'un inquiétant rituel. Son salut, il le devra à une seule et même personne, une mystérieuse jeune femme masquée qui va insister pour être châtiée à sa place. Et dès le lendemain, Bill, il n'aura plus qu'une idée en tête, comprendre ce qui s'est réellement passé durant cette folle escapade.
Et ce film, c'est l'aboutissement d'un très très long projet.
Alors oui, comme d'habitude avec Kubrick, il n'y a rien qui a été simple. C'est même un peu dans la douleur qu'Eyes Wide Shut a été enfanté. Bon, déjà, il faut savoir que l'idée d'adapter ce récit, qui a pour titre La Nouvelle Rêvée, écrite par Arthur Schnitzler et parue dans les années 1920, elle trottait dans la tête de Kubrick depuis bien longtemps puisqu'il en avait acquis les droits dès 1968, époque où il venait de triompher avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais finalement, à ce moment-là, il va préférer réaliser un autre film, ce sera Orange Mécanique. Il va donc falloir attendre le 4 novembre 1996 précisément pour voir commencer dans le plus grand secret le tournage de Eyes Wide Shut qui va ne s'achever, attends, accrochez-vous bien, que 19 mois plus tard.
Ah oui,
ça va,
ah
ouais,
oui,
ça va durer un moment.
Ouais,
d'ailleurs, Kubrick, il décède en mars 99, donc comme je le disais tout à l'heure, un peu de temps avant achevé le montage final et avant la sortie du film, puisque ça va arriver dans les salles américaines le 16 juillet, avant d'être présenté en ouverture de la 56e Mostra de Venise le 1er septembre 99.
Tu parlais de tournage éprouvant, et notamment aussi pour le couple star, Cruise, Kidman d'un côté.
Ouais, effectivement, parce que si Tom Cruise et Nicole Kidman ils vont divorcer quelques années plus tard, en 2001, au moment où ils tournent, ça faisait déjà quelques temps que leur couple connaissait des difficultés. Alors, entre autres, à cause de l'omniprésence de l'église de Scientologie dans la vie de Tom Cruise, ça, Nicole Kidman, elle le supportait de moins en moins, elle pouvait plus les blairer, clairement. Et Kubrick, il était visiblement au courant de tout ça, mais il voulait impérativement ce couple-là pour incarner ses personnages principaux. Du coup, le réalisateur, il ira jusqu'à recruter un coach matrimonial pour essayer de régler leurs problèmes conjugaux. Afin de perturber le moins possible le tournage du film sur 19 mois quand même. Et tout ça, ça va s'avérer très très éprouvant pour les deux acteurs et en particulier pour Nicole Kidman qui a ensuite déclaré « Tous les deux, nous devions affronter la jalousie et le sexe. C'était toujours là dans un coin de notre tête. C'était vraiment un drôle de truc d'avoir ça à l'esprit tout le temps, jour après jour. »
Ouais, c'est clair que ça devait être éprouvant surtout moralement, ouais, bien évidemment.
Ouais,
bien
ouais,
évidemment.
Ouais.
Un film qui a également frôlé la censure d'ailleurs.
Tout à fait, du moins aux États-Unis, où le côté sulfureux d'Eyes Wide Shut a bien failli être X-rated, ou classé X en français, donc interdit aux moins de 18 ans, ce qui aurait grandement limité sa distribution là-bas, puisque un certain nombre de cinémas, mais aussi de DVD tech, alors les DVD tech ça n'existe plus, on va dire c'est des plateformes maintenant, mais là-bas aux États-Unis, ces cinémas-là, ces DVD tech-là rejetaient tout bonnement les films classés X. Il a donc fallu trouver une parade pour éviter cette qualification. Et c'est la fameuse scène d'orgie très explicite que la Warner a décidé de modifier pour y arriver.
Ouais, bien sûr.
Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sacrifié 65 secondes donc, de cette scène, qui est assez longue en réalité. Et puis, ils ont ajouté des silhouettes virtuelles grâce au numérique afin de dissimuler les parties intimes des personnages.
Ah, c'était une des premières, j'imagine, en plus.
Alors, à l'époque, ouais, ça ne devait pas encore être monnaie courante. Du coup, ce procédé, ça a beaucoup agacé les cinéphiles américains, hein, puisqu'ils ont dû attendre 2007 pour voir sortir la version non censurée d'Eyes Wide Shut en DVD et en Blu-ray. Alors, en revanche, en France, pas de souci, hein, le film il est sorti avec la scène d'orgie du montage d'origine. Nous, on a eu tout, vraiment, il n'y a pas eu de modification. Et en plus, le film est classé, a été classé tout public, avec juste une nuance, avec un petit avertissement. Donc voilà, oui, chez nous, il en faut plus que ça pour choquer le public.
C'est clair. Où est-ce qu'on peut retrouver ce film, Letty?
Eh bien écoute, ce film, il est dispo sur Max. Et juste pour terminer sur une anecdote, Noël, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a pile 15 jours.
Oui, c'est vrai.
Et certains peuvent le classer dans les films de Noël, ce film-là.
D'accord.
Vous allez me dire, quelle drôle d'idée.
Ouais.
Mais parce que l'action se déroule à Noël.
Ah, d'accord, ok, c'est un film qui se passe pendant la période hivernale, la période des fêtes.
Exactement.
Tu me disais qu'on pouvait le retrouver sur Max.
Sur Max,
c'est
ouais,
ça.
Pour l'instant, et puis ça va sûrement tourner sur les différentes plateformes.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci Letty, merci à
Théo.
Toi. On se retrouve tout à l'heure, à 13h, pour ta découverte du jour. Ce sera juste après les infos. À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.